Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes certainement très nombreux à écouter Europe 1, en particulier ce matin. Depuis 2007, vous aviez rendez-vous avec Mediapolis le samedi. Suite au départ d'Olivier Duhamel, Mediapolis s'arrête. Et nous vous proposons un nouveau rendez-vous sur l'antenne. C'est le retour des grandes voix, les grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve, bonjour. Gérard Carrérou, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Quatre grandes voix, quatre grandes figures du journalisme en France. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de vous accueillir chaque samedi, désormais à 10h, pour une heure de débat, de décryptage, une heure de débat et trois grands thèmes. En ces temps d'immédiateté de l'info, de réseaux sociaux, on va se poser, on va prendre le temps. On va s'écouter, analyser, décrypter. Vous allez peut-être parfois vous quereller.
Non.
Mais toujours dans le plus grand respect, je vous connais et je compte sur vous. N'est-ce pas ?
Ça, c'est sûr.
Et grâce à vous, grâce à votre expertise, vous, les grandes voix d'Europe 1, eh bien, nos auditrices, nos auditeurs devraient ressortir de cette heure de débat plus informés, mieux informés. Sommaire. La démocratie américaine assiégée, les images ont fait le tour du monde avant cette volte-face inattendue de Donald Trump.
À ceux qui se sont lancés dans la violence et la destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous devrez payer.
Une fin de règne chaotique, passation de pouvoir avec Joe Biden dans 11 jours. Donald Trump n'y participera pas, il l'a dit hier. Qu'est-ce qu'il va se passer d'ici là ? Trump va-t-il annoncer sa candidature pour 2024 ? Est-ce vraiment la fin du Trumpisme ? Deuxième thème de cette émission, les vaccins.
Je pense qu'on a été un peu trop défensif dans la façon d'aborder le vaccin.
Le mea culpa d'Olivier Véran sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Après les masques et les tests, y a-t-il eu des ratés, voire un naufrage de la politique gouvernementale ? Vous allez l'analyser dans un instant. Et puis cette question.
Qu'est-ce qu'il y a de mitterrandien chez Emmanuel Macron ?
D'être président.
La réponse cinglante de François Hollande à Yann Barthès sur Quotidien, alors que le chef de l'État s'est recueilli hier sur la tombe de François Mitterrand. Macron sur les traces de Mitterrand à 16 mois de la présidentielle. Y a-t-il des arrière-pensées politiques ? Hâte de vous entendre les grandes voix, vous qui êtes tous des experts avertis de la 5e République. Pour débuter cette émission, donc, à coup sûr, l'image de la semaine. Ce coup de force qui a sidéré le monde entier, le Capitole. Le cœur de la démocratie américaine, pris d'assaut par des partisans de Donald Trump. C'était mercredi, du jamais vu dans l'histoire de l'Amérique, ou presque, parce qu'on va faire un peu d'histoire, on va apprendre des choses dans cette émission. Il y avait eu un précédent, n'est-ce pas ?
Bon ben, un précédent des Britanniques, des troupes britanniques. De toute façon, vous savez que les Anglais, ça hausse tout, notamment en matière militaire. Ça n'est pas des obligeances que je dis, mais c'est en 1814.
D'ailleurs, 1814.
L'année qui annonce aussi sur le territoire européen Waterloo, entre les troupes britanniques, pas seulement britanniques d'ailleurs, et celle de Napoléon.
Et le Capitole avait été brûlé cette
nuit. Et la Maison Blanche aussi.
Et la Maison Blanche en août 1814. Mais pour montrer à quel point on vit des jours historiques en ce moment, il reste 11 jours donc, hein, avant la prise de pouvoir de Joe Biden. On se demande bien ce matin ce qui va encore se passer après le dernier rebondissement en date. Hein, c'était hier soir, Donald Trump qui annonce sur Twitter, avant que son compte ne soit suspendu de manière permanente, qu'il ne participera pas à la passation de pouvoir le 20 janvier. Alors c'est déjà arrivé, mais pas beaucoup. Et ça remonte à longtemps qu'un...
Trois fois au 19e siècle. Oui.
Voilà. Et la dernière fois, c'était en 1869, oui. N'est-ce pas, les grandes voix ?
Après 1869. La guerre de...
Andrew Johnson, la guerre de sécession. Que vous avez tous bien connu.
Il était en grosse difficulté d'ailleurs.
Andrew Johnson qui avait refusé d'assister à la succession. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de ce débat sur l'avenir de Trump, sur une éventuelle candidature en 2024. Mais d'abord, cette question, les grandes voix. Barack Obama a dit que c'était un moment de déshonneur, de honte. On a vu la honte affichée à la une des journaux américains le lendemain de ce qui s'est passé. Gérard Carrérou, je me tourne vers vous. Ça fait 45 ans que vous sillonnez l'Amérique. Vous connaissez très bien les États-Unis. Est-ce que c'est la honte pour les 74 millions d'Américains qui ont voté pour Trump ?
Évidemment non. Là, c'est une réponse générique, générale que vous me demandez. Évidemment non. Alors, il ne faut pas non plus... Je ne suis pas là pour, être l'avocat de Trump ou diminuer les décisions regrettables et condamnables qu'il a pu prendre. Parce que c'est... Il faut le dire dès le début, parce que sinon... C'est appeler à... Quand on a une foule excitée de plusieurs dizaines de milliers de personnes, leur dire, et puis on va se retrouver au Capitole, c'est, j'allais dire, un appel au meurtre. C'est pas un appel au meurtre, mais c'est un appel à la violence, à aller manifester. Donc, je condamne cette initiative. là, vous me posez la question
je,
de dire est-ce que
pas,
c'est.
Je me pose du côté
oui,
du Trumpiste.
J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, est-ce que c'est. Alors, moi, je vous ai donné ma réponse, mais ces partisans, les 74 millions, il y a eu 74 millions d'un côté, 81 millions de l'autre côté. Bon, ça veut dire 52-48 en termes de pourcentage en France. 52-48, ça veut dire que Biden a bien été élu. Bien élu, donc il est légitime. Mais pour les partisans de Trump, qui ont été effectivement excités sur l'idée qu'il y avait eu tricherie jusqu'au bout par les messages de Trump, ces gens-là, il y en a une partie qui continueront. Et je pense la plus très franchement, la plus grosse partie, je ne veux pas faire de pronostic, mais la plus grosse partie continuera à être fidèle au Trumpisme. Parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure, le Trumpisme, c'est autre chose qu'une manifestation insurrectionnelle ou une émeute sanglante, il y a eu 5 morts, au Capitole. C'est bien autre chose que ça sur le plan de la sociologie et de la politique.
De toute façon, les premiers sondages commencent à arriver et confirment tout à fait ce que dit Gérard, puisque environ 60% des républicains...
Mais il y a eu d'autres sondages en baisse.
Mais qui donnent raison quand même, qui comprennent le mouvement et qui sont persuadés encore que la victoire a été volée. Donc, ça pose tout le problème du Parti républicain et notamment de ses élus. Parce que les élus représentent en principe les électorats. Les élus, même s'ils ont envie maintenant de prendre la distance, certains élus, en tout cas, vis-à-vis du président sortant, de Trump, se disent « Oui, mais c'est très bien, mais comme l'électorat est contre moi, peut-être que je ne serai pas réélu. » Et d'ailleurs, ça explique quand même beaucoup la division apparente des républicains. Et pourtant... C'est sur les républicains que tout va reposer maintenant, parce que où ils acceptent la transition, ou effectivement, à chaque moment, ils essayent de la combattre.
D'ailleurs, hier soir, pour la première fois, il y a une sénatrice du camp républicain qui a appelé Donald Trump à démissionner. Certes, une sénatrice modérée, mais ça pose le problème, les grandes voix. Catherine Ney, du camp républicain, qui va-t-il suivre ou non Trump derrière ?
Sur les militants, bon, comme le dit Gérard, c'est quand même... Donald Trump qui leur a demandé de démissionner. Puis après le grabuge et puis quand même 5 morts, sa première vidéo, où d'ailleurs il est apparu avec les cheveux blancs tout d'un coup. Et alors, il ne condamnait pas les violences, mais il aurait dit « on s'aime, rentrez chez vous ». Enfin, c'était bienveillant et puis il ne condamnait pas. Oui. Et puis réapparaît hier soir. Alors là, il a de nouveau ses cheveux jaunes. Je ne sais pas, il a l'air toujours d'avoir son écureuil sur la tête. Mais là, pour les militants qui sont venus, il leur dit c'est odieux, c'est une attaque odieuse, il faut se réconcilier, scandalisé par la violence. Alors il les pousse au crime et après il les lâche. Moi, je pense que le chef, on se dit, bon, il doit être sous. C'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il y a des menaces, on veut le faire destituer. Je crois que sa fille est venue le voir pour dire écoute, arrête. Et là, maintenant, tu joues contre toi.
Et il est intervenu à la télévision, on l'a entendu, on va l'écouter d'ailleurs tout de suite sur Europe 1, ce moment où il souffle sur les braises avant de faire volte-face et de condamner ces scènes de violence.
Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont défié le siège de la démocratie. À ceux qui se sont lancés dans la violence et la destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous devrez payer.
Charles Villeneuve, Catherine Ney disait peut-être que sa fille l'a appelé en lui disant « arrête ». Est-ce que vous pensez qu'il est intervenu de cette façon-là parce qu'il y a eu des défections de ses ministres, de son entourage, parce qu'il avait peur d'être destitué ?
Non, moi je crois que surtout en tant qu'ancien président, il redevient un citoyen ordinaire. Et partant de là, comme il a soufflé sur les braises, évidemment les vidéos en témoignent, et il est susceptible d'être poursuivi si vous voulez, pour avoir justement soufflé sur les braises. Et dès lors, ça peut le priver de continuer à faire de la politique. Car moi, je suis intimement persuadé, comme Gérard d'ailleurs, qu'il continuera à faire de la politique. Les 74 millions
d'électeurs, Trump,
ça n'est pas rien. Parce que Trump est l'écho de la crise de la société américaine. Comme d'ailleurs, un certain nombre, il ne faut pas oublier quand même que chez nous, les Gilets jaunes ont mis à sac l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, qu'ils ont failli prendre en otage un ministre qui a été évacué au dernier moment, et qu'il y a eu des mouvements assez importants, notamment rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour pénétrer dans l'Élysée. Il a fallu mobiliser aussi bien, si vous voulez, les blindés de la gendarmerie nationale qu'évidemment les escadrons de CRS. Donc cet écho-là, de toute façon, il est toujours présent. Il y a une fracture, il y a une... une brisure importante dans la société américaine. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et quand vous avez une masse de 74 millions d'électeurs, croyez-moi qu'ils ne vont pas oublier. C'est en cela d'ailleurs, et j'adhère totalement à la, au développement, à l'analyse de Gérard, quand il dit de toute façon que les 200 excités, si vous voulez, qui ont pris d'assaut le Capitole, qui n'ont pas pris en otage, ils auraient pu le faire, notamment un certain nombre de députés du Parlement, ne serait-ce que la présidente, Mme Pelosi, hein, qui est une anti-Trump acharnée, eh bien, à partir de là, si vous voulez, je crois que son retrait, sa volte-face, est sage, si j'ose dire.
D'un mot, Catherine.
Moi, je crois d'abord qu'il a été lâché. Tout le monde s'en va. Hein. Ces ministres les plus fidèles qui démissionnent. Le ministre de la Justice qui parle de trahison.
Oui.
Quand même, tout le monde s'en va. Et puis surtout, s'il veut continuer à rameuter la troupe, il n'a plus Twitter. Comment il va communiquer avec eux? Comment il va faire vivre la flamme? C'est ça.
Parce que c'est 88 millions de followers hein, pour Donald Trump, on le rappelle. On va parler dans un instant, Michel
Cotard. Oui, je peux dire juste, je ne suis pas du tout d'accord. Catherine, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il y avait deux possibilités pour Trump. C'était le, alors pour le coup, ce qu'on avait, certains ont dit, le baroud d'honneur et après, il disparaît de l'histoire. Et le trumpisme n'aurait été qu'une parenthèse de 4 ans. Ou alors, il a une démarche, effectivement. Et moi, je crois que, y compris dans son revirement d'avant-hier ou d'hier soir, il y a effectivement la démarche. Alors, on dit, ou c'est fini, oh, ouf, on est débarrassé de Trump. Parlons maintenant avec des gens sérieux, Biden, etc. Ou alors, on croit qu'il y a quelque chose qui a commencé avec le Capitole, mais qui n'est pas terminé, et c'est ce que je crois, et un certain nombre d'analystes
On va en parler dans un instant. On marque une première pause, les grandes voix. Je sais que vous avez envie de parler, vous avez envie de nous dire beaucoup de choses et de décrypter tout ce qui se passe. On va parler de cette scène d'insurrection, de ce qu'elle dit de la fragilité de nos démocraties, juste après cette courte pause.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Le retour des grandes voix autour de cette table sur Europe 1. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On parle dans ce premier thème du débat de l'avenir des États-Unis, de l'avenir notamment de Donald Trump. Il n'a plus que 11 jours à la tête de la présidence américaine. Mais malgré tout, du côté démocrate, on veut le destituer, Michel Cotta, avec soit le 25e amendement de la Constitution, pour dire qu'il est inapte, soit une procédure d'impeachment.
Alors, on comprend pourquoi, évidemment. C'est que il ne faut pas, dans l'esprit de Nancy Pelosi et de ses amis,
du président de la Chambre des représentants.
Il ne faut surtout pas que Donald Trump reste en piste dans les 4 ans qui viennent. Parce que d'abord, ça va leur empoisonner la vie. Et ensuite, comme on l'a dit, il a quand même des soutiens derrière lui. Par conséquent, la seule façon, ce serait évidemment de décréter un impeachment qui l'éloigne pendant longtemps de la vie politique.
Il interdit.
Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Autant 11 jours, c'est assez pour que Donald Trump fasse une grosse bêtise pour montrer qu'il existe. C'est pas sûr, moi j'y crois pas, mais enfin bon. Mais autant 11 jours, c'est pas suffisant pour avoir un impeachment.
Oui, mais Michel Cotta,
Par conséquent, il jouera un rôle et il continuera sans doute à jouer un rôle dans la vie politique, à moins que, évidemment, son esprit l'amène à construire d'autres tours ailleurs, peut-être.
Sauf que si la procédure est lancée, quand bien même elle n'arrive pas à son terme dans les 11 jours, elle va pouvoir se poursuivre et il pourrait être rendu illigible dans les 4 années à venir, ce qui l'empêcherait d'être candidat en 2024.
Moi, je n'y crois pas. Simplement un mot. Je pense qu'il sera mis, si vous voulez, en quelque sorte, ça n'est pas tout à fait comme ça que le droit américain marche, mais il sera mis en examen pour incitation au désordre. Ça, vraisemblablement, il n'y échappera pas.
Oui, mais il peut, gros coup, c'est annoncer sa candidature pour dans 4 ans, peut-être le jour de l'investiture.
Oui, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui me paraissent invraisemblables. Je crois qu'il n'y aura pas d'impeachment, par exemple. Il y aura peut-être un vote à la Chambre des représentants qui fera l'impeachment, mais après, comme il faut déférer le président à ce moment-là devant le Sénat, même s'il y a une majorité maintenant démocrate, le temps sera passé. Donc il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas non plus nous a sorti le 25e amendement, le vice-président déclare le président fou, etc. Il n'y aura pas ça non plus. Tout ça, c'est l'écume pour l'instant.
Et toi,
je ne crois pas du tout. Mais alors, il reste ce qu'a dit Catherine, c'est très important. Parce que On sait bien que faute d'avoir un soutien des médias, les médias américains, il faut bien dire les choses, je l'ai dit plusieurs fois sur l'antenne ici, à 80% les médias américains ont été contre anti-Trump. Les grands médias, hormis Fox News, on dit toujours Fox News, mais Fox News c'est une des quatre grandes chaînes, et puis il y a toute la presse par ailleurs. Donc les médias échangés, il a gouverné du coup. Il a contrebalancé l'hostilité générale des médias à son égard avec les réseaux sociaux, avec Twitter. Mais je ne crois pas, ou alors l'Amérique serait dans une évolution vers quelque chose d'autre qu'une grande démocratie, l'Amérique ne peut pas maintenir une sorte d'interdiction Twitter, Trump interdit de Twitter ad vitam aeternam, c'est un pas vers une Amérique maccartiste qui ressemblerait fâcheusement, à mon avis, pour ceux qui l'aiment comme moi, qui ressemblerait fâcheusement à la Chine, dont on nous dit sans arrêt, à juste titre, qu'elle est contrôlée par le Parti communiste, ou à l'Iran, des Mollahs, etc.
Et qui n'arrive pas à tout contrôler. Oui, et qui n'arrive pas à tout contrôler.
Non, je veux dire, je ne crois pas un instant que l'interdiction de Twitter puisse aller au-delà de quelques heures, quelques jours.
Alors, je
parce
qu'on
que
avance
sinon, c'est plus la démocratie.
Sur ce qui se cache derrière ce qui vient de se passer, justement, en termes de fragilité de nos démocraties, on a vu des réactions dans le monde entier. Bien entendu, les prédécesseurs de Donald Trump, Barack Obama, George Bush Jr., qui dit des scènes dignes d'une république bananière, Bill Clinton. Et puis en France, au plein milieu de la nuit, 3h25 du matin, Emmanuel Macron qui prend la parole en français et en anglais.
What happened today in Washington DC is not America. Definitely. We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy.
Et Catherine Ney, cette déclaration d'Emmanuel Macron en pleine nuit, ça traduit quelque chose, une inquiétude?
Oh ben non, mais il voulait jouer un rôle. À 2h15 du matin, il s'est mis à l'heure américaine. C'est pour que ça soit envoyé sur les réseaux américains. Mais ce que j'ai trouvé un peu ridicule, c'est la mise en scène. Parce que
le drapeau
Madame Merkel aussi a dit qu'elle était inquiète. Mais lui, drapeau américain, drapeau européen, drapeau français, et puis à un moment, il a eu cette phrase, nous ne céderons rien. Alors, nous ne céderons rien. Alors, il part en guerre aux côtés des États-Unis contre les Trumpistes. Ça veut dire quoi, vous voyez?
Non, ça veut dire qu'il a embrassé pardon.
Mais moi, j'ai trouvé ça, cette mise en scène un peu grandiloquente et...
Michel Cotard. Alors,
j'ai pensé à Ubu Roi.
Voilà.
Ubu Roi du monde. Que l'essentiel, roi du monde.
Moi, je trouve qu'effectivement, le drapeau américain était peut-être de trop, j'en sais rien. En attendant, il a quand même posé la question sur la question de la démocratie. Et c'est vrai que la définition de la démocratie, c'est que la loi de la majorité s'impose à la minorité. Or, ça ne s'est pas fait en Amérique, ça ne s'est pas fait ce jour-là. Donc, il l'a fait. Qu'il veuille effectivement jouer un rôle et même dire que pour lui, la démocratie, c'est la majorité, car pour le moment, il a la majorité en France. C'est sûr, on voit très bien quelle parti... Non, mais on voit très bien quelle partie il veut en trouver, mais je trouve qu'il a... Il a posé la question de la démocratie, et c'est effectivement la question qu'on se posait à ce moment-là.
Oui, enfin, la démocratie américaine, honnêtement, la démocratie américaine n'était pas en danger. Écoutez, j'ai entendu parler
la démocratie assiégée par ses complotistes, vous avez vu ces images, cet homme torse nu à peau de bison, Jake Angelique.
On en a vu d'autres à d'autres moments, et on en a vu même à Paris.
Est-ce que vous imaginez quand
mais c'est pas ça que je veux dire. Une seconde, je veux dire un truc très court. On a parlé de terrorisme. Je pense qu'il y a un moment donné où l'inflation verbale et le choix des mots est essentiel. Et le mot terroriste a même été prononcé par Biden, le nouveau président américain. Il faut se méfier de parler terrorisme. Les Américains, vous savez, le terrorisme, ils savent ce que c'est. Le World Trade Center, les 3000 morts, des explosions, des tours. Ils savent ce que c'est. Ça, c'est du terrorisme.
Oui, on a vu des t-shirts avec Auschwitz marqué dessus.
On a vu aussi chez nous des manifestations dans Paris avec Allah Akbar et des étoiles jaunes. Et ça a pas, on n'a pas dit que la démocratie française était pour autant en danger. Il faut, à mon avis, en disant que la démocratie, je l'ai dit dès le début, la démocratie a été effectivement... Il y a eu une sorte de viol d'une tradition démocratique qui est qu'on ne s'approche pas des parlements. Souvenez-vous du 6 février 34 en France.
Alors, on a tout fait du 6 février 34, voilà. Moi je vais vous parler de 1923 en Allemagne. L'historien Dominique Moisy fait un parallèle avec le putsch de Munich, avec l'accession au pouvoir avorté d'Hitler et qui est arrivé au pouvoir plus tard. Alors, Charles Villeneuve, vous en pensez quoi?
Le putsch de Munich intervient dans un pays, l'Allemagne, qui est par terre, qui est humiliée, qui est désarmée, qui est assommé par le traité de Versailles, que lui a imposé notamment les Français, Clémenceau, où il faut payer de toute façon des dédommagements considérables. C'est ça, l'Allemagne et le putsch de Munich. De 1918 à 1933, jusqu'à l'avènement d'Adolf Hitler, voté, arrivé au pouvoir démocratiquement par le Parlement, le Reichstag, qui a voté en majorité pour Adolf Hitler, il ne faut pas l'oublier, cette Allemagne-là non plus. Et est-ce que les États-Unis sont dans l'état de l'Allemagne de 1918 après la guerre 14-18?
Donc, mauvaise
comparaison.
Pas. Mauvaise.
Oui.
Merci les grandes voix. On arrête le débat sur les États-Unis pour l'instant. Dans un instant, la stratégie vaccinale du gouvernement. Léger retard à l'allumage ou naufrage? Vous allez nous donner votre réponse.
Europe 1, Sébastien Guillaume.
Et il continue de parler dans ce studio alors que nous sommes à l'antenne. Oh. Messieurs, dames, les grandes voix d'Europe 1, Gérard Carrérou, Michel Cotta.
L'émission
Charles
avait repris, pardon,
oui, on
était
repris
en train de parler.
Et Catherine Ney. On parle à présent de la stratégie vaccinale du gouvernement. Je vous propose tout d'abord de réécouter brièvement le ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était jeudi soir sur BFM TV. Olivier Véran. Qui disait en substance, puisqu'il n'est pas là, qu'il y avait eu un petit peu un retard à l'allumage. Ils avaient été un peu défensifs dans la stratégie, le gouvernement. Est-ce que c'est juste un retard à l'allumage? Est-ce que c'est un naufrage, comme les détracteurs les plus importants le disent?
Non, il y a un gros retard à l'allumage, ça c'est évident. Mais moi, je voudrais soumettre à la réflexion de mes camarades un fait qui est passé quasiment inaperçu. La France, comme la Russie, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, comme la Chine, fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur ces 5 membres permanents, quel est le seul pays qui n'a pas son vaccin?
La France.
La France. Alors que la Chine, 3 vaccins. La Russie, 2. On ne connaît pas l'efficacité exacte. Mais les États-Unis, 2 vaccins. Le Royaume-Uni, 1 vaccin. Oxford, bon, et qui est très efficace, tout aussi efficace que Pfizer, qui, lui, couvre justement le variant anglais, d'après ce que me dit.
Un peu moins, a priori, de ce qu'on sait.
Oui, enfin, un peu moins, ils en ont un. Ils en ont un. Et nous, nous n'avons rien.
Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en conclut?
Eh bien, j'en conclus que le gros retard à l'allumage, bien évidemment, on a confié à une société américaine, McKinsey, de guider de toute façon le ministère de la Santé.
Mais ça, pas seulement le retard à l'allumage, il est dans la recherche en France,
si je peux terminer,
considérée depuis des années.
Si je peux
et
terminer, madame Cotta. Si je peux terminer, madame Cotta, merci. Merci de votre
vous coupez toujours très difficile, mais enfin...
Non, mais,
vous êtes bien parvenu, Michel.
Non, mais, nous avons un nombre considérable de l'inspection des finances à la Cour des comptes, de toute façon, et j'en passe, l'inspection générale même de la santé, et nous ne faisons pas appel à ces gens-là qui ne sont pas des baltringues, qui sont tout à fait compétents, ne serait-ce que le Parlement, pour essayer de guider, de vérifier, d'organiser aussi, de toute façon, ne serait-ce que le Comloc, c'est-à-dire les logisticiens militaires. Vous savez qu'aux États-Unis, vous savez qu'en Israël, qu'en Allemagne, la Bundeswehr, etc., fait partie des organisateurs, justement, de la vaccination. Nous n'avons mobilisé aucun de ces gens-là. C'est pour ça que je dis gros retard à l'allumage. C'est en train d'être rattrapé. Et on s'en félicite.
Il faudrait faire appel à l'armée, il faudrait faire appel aux pharmaciens, d'autres pays, on fait appel, non pas à l'armée, mais à McKinsey,
par exemple, comme en France, finalement, ce qui s'est passé sûrement...
Mais moi, je me proteste contre ça. Je proteste de débourser de l'argent d'un million minimum par mois quand ça n'est pas deux
militaires.
À McKinsey. Nous avons des gens tout à fait compétents de toute façon pour faire le même travail que McKinsey.
Mais en tout cas, au début ça a quand même été un échec.
Pour suivre ce qu'avait dit Charles Villeneuve, effectivement, je dirais que malheureusement, on n'a pas eu de chance. On a quand même une entreprise qui est une entreprise...
Sanofi, bien sûr,
parce qu'il a donné cet exemple. C'est vrai, il a raison, objectivement. Simplement,
on est vexé quand même.
C'est vexant parce que
ça dit que ça ne sert à rien. Mais une fois qu'on a fait cette remarque, Cotta, moi, je ne suis pas d'accord.
Mais Sanofi est une entreprise qui a été très longtemps à l'époque, effectivement, des années, jusqu'au début des années 2000, 2005-2010, a été leader sur le plan mondial. Ouais, et là, ouais. effectivement, on pensait qu'elle était dans le peloton de tête, et malheureusement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu des pépins, bon, mais ça c'est dommage.
Alors, est-ce que le problème, il n'est pas, Michel Cotta, plutôt du côté de l'acheminement? Il y a eu le problème des masques, il y a eu le problème des tests. Est-ce que le ministère de la Santé n'a pas été assez réactif? C'est une enquête de Mediapart de cette semaine qui dit, voilà, il y avait 38 des 113 congélateurs susceptibles de stocker les doses fin décembre qui étaient mises en place, seulement.
Oui, oui, on peut dire ça. Mediapart, je voudrais juste répondre sur le vaccin. 30 secondes. Le Sanofi, effectivement, c'est un échec. Je ne le nie pas. Je dis simplement que la politique de la recherche en France, depuis des années, est une politique sur laquelle on a toujours renié des crédits.
Et
finalement,
au bout du compte, pour travailler parce
au bout du
sont
compte
pas
effectivement, le pays Pasteur arrive à ne pas avoir Sanofi. Bon, mais sur l'approvisionnement, je pense qu'il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement, étant donné que toute l'Europe, en principe, était au même rythme. Mais simplement, je voulais faire remarquer qu'il y a eu un débat au Parlement avant, en fin décembre. Il y a eu un débat au Parlement où le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé leur calendrier en disant on va commencer peut-être 20 décembre, mais sans doute le calendrier a été accepté. Et puis évidemment,
ça devait commencer
devant les 300 personnes,
pour les gens de
devant les
300 ans,
personnes vaccinées le premier jour, c'est sûr que
on savait que ça commencerait
notre indignation à tous et on a tous participé.
Oui, mais il y a quand
ça.
Même une chose qu'on n'a pas dite sur la logistique, parce que c'est quand même ce qui a manqué depuis le début. C'est vrai pour les masques et c'est vrai pour les vaccins. Ce qui manque toujours en France, c'est ce qui suit. Vous vous souvenez la fameuse phrase de Gaulle, l'intendance suivra. Bon, l'intendance, c'est-à-dire la logistique, c'est-à-dire l'organisation, là en l'occurrence l'acheminement sur le terrain, l'acheminement, y aura-t-il, par exemple, moi je me pose la question, comme tous les Français aujourd'hui, y aura-t-il dans les 22 000 pharmacies le moyen de pouvoir trouver une vaccination? Y aura-t-il suffisamment de vaccinodromes dans les départements? C'est ça, et c'est là qu'on va tester l'organisation française. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché au niveau des masques. Il a fallu avoir recours. D'abord, il y a eu des lenteurs extraordinaires. Il y a eu des paquets de masques brûlés sans qu'on sache pourquoi.
Et tu sais pourquoi? Parce que les commandes de l'État, l'État paye à 3 mois d'échéance. Oui. Donc, quand sur les tarmacs des exportateurs chinois, les autres pays arrivaient avec des valises pleines de billets, qui étaient servis en premier, c'était eux, c'était pas les Français. Et ceux qui payaient, c'est-à-dire les régions, la région Île-de-France et plusieurs régions, des maires, qui ont payé cash et qui ont envoyé, ils ont reçu les masques dans leur ville, dans la région, et ont pu distribuer beaucoup plus vite que l'État.
Alors, ça n'a pas été le cas des vaccins, puisqu'en principe, l'Europe avait
coordonné ses commandes,
avait coordonné
etc.
ça, moyennant quoi, on sait maintenant que l'Allemagne en a commandé quand même quelques-uns en loose day.
Mais surtout, ce qui est nouveau par rapport au débat en décembre, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit que dans ce tunnel noir de la maladie, il n'y a qu'une lueur, c'est le vaccin.
Voilà.
Et que de plus en plus de gens ont envie de se faire vacciner.
Le procès en préparation du gouvernement.
Oui, non,
je vous donne la parole dans un instant, Charles Villeneuve. Vous allez réagir à ce qu'a dit justement Olivier Véran, le ministre de la Santé, en disant « Regardons ailleurs, on n'est pas si mauvais ».
Le vaccin, il sera gratuit. L'injection, elle est gratuite. On vient vous chercher chez vous. On organise des choses dans les EHPAD. C'est ça aussi la France. C'est cette qualité, ce savoir-faire. Alors parfois, ça prend un peu de temps. Parfois, on peut nous reprocher de ne pas être assez efficace. Je veux bien prendre des critiques. Mais n'oublions pas aussi ce qu'on a comme atout dans notre pays par rapport à tous les pays qui nous entourent.
Vous entendez cette défense du gouvernement?
Moi, je vous dis qu'heureusement que le ridicule ne tue pas, si vous voulez, par rapport à ce que je viens d'entendre. Il y a un seul point sur lequel je suis d'accord tout à fait, c'est qu'en France, c'est gratuit.
Oui.
Et c'est vrai. Bon, il n'y a qu'à voir ce que ça coûte à la sécurité sociale, mais il n'empêche que c'est gratuit. Et c'est important pour un certain nombre de gens. Mais si vous voulez, les Français, dont nous faisons partie ici tous les quatre, et vous aussi, ne peuvent comprendre que l'Allemagne, qui a reçu le même nombre de vaccins que la France, s'est mis à vacciner 20 000 personnes par jour, alors que nous parvenions à en vacciner que 50 à 100. Bon, ça a changé. Si vous voulez, la vitesse a changé. Bon, et c'est vrai, et on s'en félicite, heureusement. Mais c'est bien parce que la polémique a piqué les fesses du gouvernement que ça a changé. S'il n'y avait pas eu ce tollé et cette comparaison avec nos voisins européens,
ou même dans le monde, où Israël, 20% de la population a été déjà vaccinée.
Tout à fait, mais il ne faut pas oublier, si vous voulez, qu'en Israël, la vie est très importante. C'est un petit peuple de 8 millions. Et que donc, ne serait-ce que pour ceux d'entre nous qui ont couvert tous les conflits israélo-arabes, on sait très bien que derrière les colonnes de blindés israéliens, vous avez des colonnes de toute façon de médecins, de soignants et de toute façon qui sont habilités justement à soigner immédiatement les hommes. Donc c'est cette philosophie-là qui a présidé. Et ce n'est pas cette philosophie-là, si vous voulez, qui a en quelque sorte, si vous voulez, tenu comme la poutre de l'organisation au départ.
Charles Villeneuve, vous dites le ridicule ne tue pas, sauf que Sébastien. Ce matin, mon cher Gérard, il y a eu un appui inattendu pour le gouvernement. Il y a 36 membres du Parlement dans un office, 18 députés, 18 sénateurs qui valident la stratégie du gouvernement.
Oui, non, mais ce qui est fascinant et ce qui en même temps est extrêmement irritant pour les Français et qui explique beaucoup de leur colère parfois, c'est que quand il y a des difficultés, en France, on n'a pas le courage politique de dire la réalité des choses. On ruse avec la vérité. L'histoire des masques a été, de ce point de vue-là, exemplaire. Plutôt que de dire on n'en a pas assez, voilà pourquoi, et on va essayer de faire mieux, on a inventé l'idée que ça servait à rien. Et c'est un peu pareil pour là. On a fait l'éloge de la lenteur. L'éloge pendant plusieurs jours de la stratégie dite de la lenteur en disant, et les 45 feuillets à remplir pour les gens dans les EHPAD non. sont très exactement
C'est un fait. C'est pas à remplir par les résidents, oui. c'est à remplir par les dirigeants.
Oui,
et le président du Sénat là-dessus.
Non, mais c'est parce que son père a eu sur son bureau ce que reçoivent les dirigeants voilà, de l'EHPAD et lui, il a pris ça pour lui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut à un moment donné face the facts. Alors pour le coup, parce qu'on parlait de Trump. Il faut faire face aux réalités. Là, est-ce qu'on aura assez de vaccins? J'espère que oui. Il semblerait que oui, plutôt, avec tout ce qui est arrivé dans les 40 dernières années. Mais est-ce qu'on aura la possibilité de tenir la promesse? La promesse a quand même été faite par M. Véran, qu'on n'a pas entendu, mais qu'on a encore dans la tête depuis 48 heures. La promesse de M. Véran, c'est qu'il y aura 1 million de gens avant la fin janvier. Bon. Il n'y a pas une éternité devant nous. 1 million vaccinés avant la fin
et
janvier.
Et on en est à 80 000 ce
on
matin.
On en est ce matin à 80 000. Deuxième chose, il a dit, je suis incapable de vous dire combien de gens auront été vaccinés à l'été. Or, il y a à peu près 5 ou 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, dites vulnérables, donc. Est-ce qu'on pourra les vacciner avant disons la fin juin ou le 14 juillet, c'est un deuxième pari pour le gouvernement.
Oui, on a déjà ouvert ce pari puisque à partir du 18 janvier, un certain nombre de vieux qui n'étaient pas prévus
de plus de 75 ans pourront se faire vacciner. Absolument.
En plus, quand même, on peut dire qu'en France, on est le seul pays dans lequel l'opposition à la vaccination apparaissait comme aussi considérable. Alors, en réalité, moi, je suis persuadé qu'avec le temps, au contraire, les gens s'amènent...
Les gens vont râler parce qu'il n'y a pas assez de vaccins et que ça ne va pas assez
vite. C'est vrai qu'il y a quand même un certain paradoxe à l'idée que des gens qui ne veulent pas se faire vacciner trouvent quand même que ça va trop lentement.
Ouais. Charles Villeneuve, dernier mot de conclusion, après on va passer à Mitterrand et Macron.
Il y a un problème important qui se pose par rapport à ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite. C'est que pour passer à l'action, on prend infiniment de précautions parce qu'il y a... Comme avait dit d'ailleurs le président de la République en confidence à l'un des parlementaires qui était venu le voir, il y a le risque pénal. Et ce risque pénal, si vous voulez, ponctue quasiment toutes les actions du gouvernement, quel que soit ce gouvernement. Et c'est une erreur. La preuve, c'est ce qui a ralenti fondamentalement, parce qu'il ne passe pas assez vite à l'action, ce qui a ralenti, évidemment, cette politique de vaccination.
On aura l'occasion de reparler de la stratégie vaccinale dans les prochains débats des Grandes Voix, on en est sûr. Dans un instant, la troisième partie de cette émission, Macron sur les pas de Mitterrand, héritier légataire ou arrière-pensée politique quand il va à Jarnac.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. On continue de parler de stratégie vaccinale pendant la pause. Mais là, on aborde un autre sujet, mes chères grandes voix. Après l'année de Gaulle en 2020, l'Élysée annonce une année Mitterrand en 2021. Hier, il s'est donc recueilli sur la tombe de son prédécesseur à Jarnac pour le 25e anniversaire de sa mort. La présidentielle, c'est dans 16 mois. Est-ce qu'on doit y voir, Catherine Ney, vous qui avez écrit, comme Michel Cotta, comme Charles Villeneuve, de nombreux ouvrages de référence sur François Mitterrand, doit-on y voir une arrière-pensée politique?
Bon, sûrement un peu, mais c'est les 40 ans de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, les 25e anniversaire de sa mort, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Bon, eh ben, c'est une année mémorielle pour la gauche qui va célébrer ces dates, et donc il ne peut que les accompagner. Donc pour l'instant, il est allé à Jarnac déposer une gerbe, il n'a pas parlé. Donc
non, mais il a tweeté en disant c'est l'héritage de Mitterrand est toujours vivant et continue d'irriguer notre histoire collective, Michel Cotta.
Oui, mais ça ne mange pas de pain. On verra pour les 40 ans, ce qu'il retiendra de ces deux septennats, parce que 14 ans, c'est un record, resté à l'Élysée, c'est le seul président de la République. On verra ce qu'il en retiendra. Moi, je note qu'il fait très, très peu allusion à lui depuis 3 ans et demi.
Justement, de ce point de vue-là, j'ai eu la curiosité de relire hier le livre Révolution, qui avait été son livre électoral. Oui. Il n'y a pas une fois, y compris sur l'Europe, le mot de Mitterrand. Il y a Rocard qui est cité, Chevènement est cité, mais jamais le mot de Mitterrand. Et donc, quand même, c'est vrai qu'il avait 3-4 ans quand Mitterrand est arrivé au pouvoir.
Et 18 quand il est mort.
Je me dis quand même qu'en dehors alors de l'Europe et de la peine de mort, comme il l'a dit après, l'opération est quand même électorale. Il y a quand même, pas directement, mais enfin, il y a quand même un arrière-pensée
électorale. C'est un clin d'œil à la gauche après avoir penché à droite en rendant hommage à Pompidou, Giscard et Hippie de Gaulle.
37% des électeurs de gauche, pour le moment, se prononcent encore pour lui. Mais je pense qu'effectivement, il essaye de rééquilibrer le « en même temps ». Il a beaucoup de droite. Et il lui faut effectivement beaucoup de gauche. Enfin, il a été très discret sur Mitterrand.
Mais la seule fois, Michel, tu te souviens, la seule fois où il a parlé de la ligne, il a d'ailleurs dit, je cite, la ligne, je me placerai dans la foulée de la ligne gaulo-mitterrandienne pour la France.
C'était dans le débat de l'entre-deux-tours,
avant d'être élu. C'est ce que je voulais souligner, pas seulement le mot, mais le fait que c'était pendant le débat d'entre-deux-tours, après quoi il a été élu. Et après quoi, effectivement, Mitterrand est passé gentiment à la trappe. Alors là, l'histoire permet, c'est confortable l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de commémorations, l'histoire lui a permis effectivement de célébrer De Gaulle, largement et à juste titre, de célébrer Giscard, je dirais, à juste titre. Voilà. Bon, et Mitterrand, et Sarkozy, il ne l'a pas célébré, mais comme on le voit sans arrêt avec Sarkozy, on se dit, bon, quelque part, il le célèbre en le rencontrant. Et puis arrive Mitterrand, mais effectivement, c'est difficile de ne pas voir un gros clin d'œil, un gros, 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 gros clin d'œil à l'électorat socialiste. Parce qu'il y a un déchet énorme. Il faut dire les choses simplement. Électoralement, il y a une partie des électeurs qui avaient voté Macron, venant de la gauche, qui avaient voté Macron. Il y en a une grosse partie, tous les sondages l'ont démontré, qui ont lâché prise et qui se regardent plutôt vers Hidalgo, vers Mélenchon, voire d'autres. Bon, donc, il faut les récupérer. Parce que c'est vrai que la droite...
Ce gros clin d'œil dont vous parlez, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, y a fait allusion hier, il était à Jarnac, on l'écoute.
François Mitterrand est celui qui a créé l'impôt sur la fortune, Emmanuel Macron est celui qui l'a abrogé. François Mitterrand est celui qui a élargi les conditions d'accueil dans notre pays, c'est Emmanuel Macron qui a restreint les conditions d'accueil des réfugiés avec la loi asile et immigration.
Charles Villeneuve.
Oui, il a fait allusion nettement à Mitterrand, rappelons-nous, de toute façon, en 2017, quand il a répondu, je crois, aux Parisiens, où il a dit « Dans mon panthéon personnel, il y a deux hommes qui comptent, c'est le général de Gaulle et le président François Mitterrand.
Oui, » oui.
Bon, ce qu'il vient chercher à Jarnac, comme l'a dit très bien démontré Gérard, ce qu'il vient chercher à Jarnac, c'est qu'il vient rappeler qu'en des temps anciens, il a commencé à gauche et qu'il n'a toujours pas léché la rampe. C'est toujours le principe de son fameux « en même temps ». Et d'ailleurs, ces jours-ci, je crois qu'hier ou avant-hier, Michel Cotta me faisait remarquer qu'il y a 37% d'électeurs de gauche qui ne votent plus, en tout cas dans les sondages, qui n'apparaissent plus comme favorables à Emmanuel Macron. Il est bien évident qu'il vient les rechercher, qu'il vient rappeler à ses électeurs qu'il a commencé à gauche et que de toute façon, il tient pour principe. Alors moi, je crois plutôt, c'est l'autre, si vous voulez, parti de socialiste, c'est-à-dire celui de Michel Rocard. Et d'ailleurs, autour de lui, remarquez aussi, il faut le remarquer, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anciens de chez Dominique
Strauss-Kahn. Oui, mais sauf qu'à dire « je viens de la gauche » et puis ensuite rendre hommage à Pompidou, à Giscard, à De Gaulle, cette stratégie du coucou, on a du mal à voir qui est vraiment Emmanuel Macron.
Il y a un livre qui vous l'explique très bien, d'ailleurs, justement.
Le livre de Corinne Laïc qui montre qu'il est un patchwork, qui se nourrit à peu près de toutes les influences et ça varie selon les moments et que voilà, il est en train de se chercher à travers tous les grands noms des deux de la droite et de la gauche.
Il a la capacité d'enfiler tous les costumes.
Oui, c'est ce que dit François Patriat, d'ailleurs, le patron de
toutes les paires, mais ça ne fait pas un collier.
Oui, sauf quand même une qualité qu'il n'a pas. Il en a beaucoup, hein, et d'ailleurs. Oui. Je vous citerai une phrase de Pierre Nora, l'historien. Il a une qualité formidable d'intelligence, de sorte de culture, etc. Toutes choses. Mais ce que dit Pierre Nora, c'est ça. Macron, supérieurement doué, a une nature heureuse et réformatrice, faite pour les temps tranquilles. Or, il n'a rencontré que des tempêtes pendant son quinquennat. Ouais. C'est ça un petit peu le problème. Là, il va chercher l'héritage de De Gaulle. Bon, De Gaulle, pour les tempêtes, il a été servi, puisqu'il est issu de la tempête de 40. Mitterrand, il a essuyé un certain nombre de tempêtes aussi. À commencer, à un moment donné, il s'est retrouvé avec la France dans la rue pour l'école publique qu'il avait essayé de réformer. Il y a eu des moments difficiles et des grosses tempêtes. Et Macron a été bien servi de son point de vue. Donc, il essaye d'aller chercher chez les grands anciens, en l'occurrence les deux que je viens de citer, il essaye d'aller tirer effectivement une légitimité qui parfois lui est contestée, justement au nom du fait qu'il n'est pas, assez régalien, il n'a pas assez l'autorité, il essaye de se mettre un peu de la cuirasse de ces deux-là.
Il essaie de retourner au schéma de 2017, qui était justement d'un côté affaiblir la gauche, de l'autre affaiblir la droite, et se trouver un centre au milieu. Et quand on parle des projets de suffrage à la représentation proportionnelle, c'est bien ça autour de quoi on tourne. C'est comment est-ce qu'on fait encore un parti en même temps qui jette d'un côté la gauche vers l'extrême gauche et de l'autre côté la droite vers l'extrême droite.
Sachant que dans son entourage, certains disent on espérait avoir Élie Rocard, au mieux on a eu Giscard. Donc le virage
mais il est
à
très libéral européen.
Hein. Oui, oui.
Il se rapproche de
l'Europe,
de Giscard.
Pour le coup, et Mitterrand, c'est aussi un héritage.
Oui, absolument. Mais je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur l'un de ses atouts. Et d'ailleurs, cet atout est apparu au moment de son apparition à près de 3 heures du matin dans l'affaire américaine. Il est insomniaque. Et c'est vrai que ça lui donne du temps, justement, de recherche, de travail. Hein, apparaître à 2h51 du matin pour dire de toute façon qu'il faut surtout faire gaffe parce que la démocratie est en danger, en disant « nous ne céderons pas hein, ». Ce « nous », c'est évidemment les Français, c'est lui-même, c'est etc. Mais comme dit Brigitte Macron, « mon mari ne dort pas », c'est confirmé.
C'est ce qu'il rapproche d'un autre grand ancien, qu'on va d'ailleurs célébrer prochainement, qui est Napoléon. Napoléon non plus ne dormait pas.
D'ailleurs, à mon avis, on pourrait avoir une cérémonie commémorative
et
pour
Napoléon. Par moment aussi était court sur la logistique. Daru, qui s'occupait de ça auprès de la Grande Armée, souvent disait « attention, il n'y a plus de chaussures pour la garde impériale, il n'y a plus de... »
Oui, mais Bonaparte et Napoléon... Hein, qui est le même, évidemment, avait un prodigieux, comme d'ailleurs Masséna, qui calculait le nombre de clous et de planches pour construire des ponts pratiquement à un clou près. Mais Napoléon pouvait te calculer de toute façon le nombre de chaussures qu'il fallait et de cartouches pour chaque expédition.
Alors, j'espère qu'on calculera les vaccins aussi bien.
On a un peu dévié. On arrive déjà malheureusement à la fin de ce débat. Je vous propose d'instaurer un petit rendez-vous pour clore ce débat des grandes voix. C'est l'événement de la semaine à ne pas rater. Ce que vous avez coché dans l'agenda, Catherine Ney.
Moi, j'ai coché que le Brexit, là, on en sort, on dit c'est formidable, les Anglais, ils ont droit de douane, ils peuvent exporter comme ils veulent, comme avant, sauf qu'il y a une règle d'origine qui tracasse beaucoup le Royaume-Uni. Parce qu'une enseigne, par exemple, une enseigne d'habillement qui importe au Royaume-Uni des produits chinois et qui exportait avant en Europe, eh bien maintenant, elle doit payer une douane, des droits de douane pour cette exportation-là. C'est toutes les entreprises anglaises qui, pour... font appel à la Chine pour fabriquer leurs propres produits, eh bien, si c'est au-delà de 50%, elles paieront des droits de douane et c'est très...
Et on va suivre ça de près donc la semaine prochaine, Catherine. Et Charles Villeneuve, en 30 secondes.
Moi, je redescends au niveau, si vous voulez, de la justice française. Cette semaine, va avoir un jugement qui sera rendu à Marseille dans le dossier d'un homme poursuivi pour avoir vendu des masques non conformes. Et je pense que la justice, et j'espère, aura la main lourde.
Michel Cotta.
Non, mais j'ai retenu quelque chose sur les maires écologistes, parce que
à Bordeaux, par exemple,
un rendez-vous comme ça donné par le maire de Bordeaux, et notamment, on s'est aperçu que dans les bons sentiments, Il a envoyé une lettre de vœux à tous les Bordelais en enlevant simplement la statue de Jacques Chaban-Delmas du paysage. Il y a une grande statue, bah, comme sous le stalinisme, vous savez, on a enlevé les personnages qui vous embêtaient. Bon. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces grands-mères venues des Verts, des grandes villes, sont pris dans les mêmes difficultés. On se dit, ah mon Dieu, il y a des problèmes de sécurité, alors qu'on ne le savait pas. Et finalement, après avoir dit des grosses bêtises comme on ne veut pas l'arbre de Noël parce que c'est un arbre mort, eh bien, il rentre progressivement dans le jeu, enfin, on l'espère.
Gérard Carrérou, ce que vous avez coché dans votre agenda.
Je vais rester au ras des citoyens que je suis. Et je vais être à côté de mon téléphone et avec ma femme ou ma fille devant leur ordinateur le 14, le mardi 14. Pourquoi le mardi 14 le jeudi 14. Vous commencez déjà à donner la bonne date. Le jeudi 14.
On sera 4 jours avant le 18 janvier, c'est ça ?
À vos téléphones, à vos ordi. Si vous avez plus, parce que c'est le jour où M. Véran, que nous n'avons pas entendu, nous a dit il y a 48 heures qu'il fallait téléphoner pour prendre rendez-vous.
Très bien.
Et rendez-vous ou par ordinateur ou par internet ou par téléphone.
Pour aller se faire vacciner.
Et si ça marche, le lundi 18 janvier, si les Français qui téléphonent arrivent à avoir un rendez-vous et ceux qui prennent aussi sur internet un rendez-vous, ça sera gagné.
Ça va être la ruée.
Si c'est une ruée et une pagaille et qu'on n'arrive pas à avoir le rendez-vous, alors là, ça sera mal barré pour atteindre la vaccination
rendez-vous le premier jour.
Non, c'est sûr, ça sera étalé. On y reviendra, bien entendu.
Au moins un rendez-vous.
La semaine prochaine, samedi prochain, 10h-11h, les grandes voix historiques d'Europe 1 seront de nouveau avec nous, avec vous. Merci à vous, j'étais ravi d'animer ce débat pendant une heure. Ça file très vite. À la semaine prochaine, les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h-11h, Sébastien Guyot.